10 000 ans ont passé depuis que Leto II a entamé son extraordinaire mutation en ver géant de Rakis. Et les historiens se disputent encore sur ses véritables motivations. Désirait-il seulement jouir d'une longévité exceptionnelle? Il vécut certes plus de 10 fois les 300 ans dévolus au plus commun mortel. Mais voyez quel en fut le prix à payer. Était-ce alors l'attrait du pouvoir? L'histoire ne l'a pas surnommé le tyran sans raison. Mais quel humain aurait voulu de tout ce que lui a rapporté son pouvoir? Cherchait-il plutôt à sauver l'humanité malgré elle? Nous n'avons pour répondre à cela que ses propres paroles sur ce qu'il dénommait le sentier d'or. Et il me paraît impossible de prendre en considération les documents trop orientés de Darès Balat. Peut-on enfin envisager l'existence d'un autre type de compensation dont la nature ne serait compréhensible qu'à la lumière de sa propre expérience? Faute de renseignements suffisants, la question demeure en suspens, et nous en sommes réduits à admirer la prouesse physique accomplie, qui est la seule chose indéniable. Péroraison de Gao Sandao, à l'occasion du 10e millénaire de la métamorphose de Leto II. Une fois de plus, Vaf se considérait comme en état de lâche-car, et jamais l'enjeu n'avait été aussi important. Une honorée matriarche de la grande dispersion demandait à le voir en personne. Powinda entre toutes. Les descendants des Tleilaxu qui faisaient partie de la dispersion lui avaient dit tout ce qu'ils savaient de ces terribles femmes, 1000 fois plus dangereuses que les révérendes mères du Bene Gesserit. Et 1000 fois plus nombreuses, songea Vaf. Il ne faisait cependant pas tout à fait confiance à ces Tleilaxu rentrés au bercail. Leur accent était étrange, leur manière étonnante et leurs pratiques rituelles sujettes à suspicion. Comment les réadmettre au sein du grand Kael? Existait-il un Goufran capable de les purifier après tant de siècles? On ne pouvait imaginer qu'ils aient pu conserver intact le secret des Tleilaxu au fil des générations. Ce n'étaient plus des frères Malik, mais ils constituaient cependant la seule source d'information dont disposait le Tleilax sur ses égarés. Et quelles révélations ils avaient rapportées! Des révélations si précieuses qu'elles avaient été intégrées dans la série des Gola Duncan Idaho, et qu'elle valait bien à elle seule tous les risques de contamination Powinda. L'endroit mutuellement choisi pour la rencontre avec les honorés matriarches était la neutralité présumée d'un non-vaisseau Ixien en orbite, rapproché autour d'une géante gazeuse dans un secteur désaffecté de l'ancien Imperium. C'était le prophète lui-même qui avait extrait les dernières parcelles de richesses minières de ce système. Et bien que des danseurs visages du nouveau type fussent mêlés sous une apparence ixienne à l'équipage du non-vaisseau, Vaf ne pouvait s'empêcher d'appréhender cette première rencontre. Si les honorés matriarches étaient réellement plus redoutables que les sorcières du Bene Gesserit, n'allait-elle pas déceler la substitution? Les préparatifs de la rencontre avaient mobilisé toute l'énergie et l'ingéniosité des Tleilaxu. Était-ce suffisant? Il se rassurait en pensant aux 2 armes indétectables qu'il portait sur lui et qui n'avaient jamais été utilisées en dehors des planètes centrales du Tleilax. Elles étaient le fruit de longues et difficiles recherches de la part de ses armuriers et consistaient en 2 minuscules lances-fléchettes dissimulées dans ses manches. Il s'entraînait depuis des années à faire jaillir les dards empoisonnés d'un seul mouvement de poignet qui était devenu pour lui un geste de défense instinctif. Les murs de la salle prévue pour la rencontre étaient couleur de cuivre, ce qui signifiait qu'ils étaient protégés contre les appareils de détection ixiens. Mais qui pouvait savoir quelles nouvelles inventions celles de la dispersion avaient pu mettre au point en dehors du domaine ixien? Vaf entra dans la pièce d'un pas hésitant. L'honoré matriarche s'y trouvait déjà, installé dans un siège à lame de cuir.
« Vous m'appellerez comme tout le monde, honoré matriarche, » lui dit-elle dès qu'elle le vit.
Il s'inclina, comme on lui avait dit de le faire.
« Honoré matriarche ?»
Il n'avait décelé dans sa voix aucun indice de pouvoir secret. Ses légères intonations de contralto exprimaient uniquement le dédain qu'elle avait pour lui. Elle ressemblait à une vieille sportive ou acrobate à la retraite, diminuée mais encore pourvue d'une bonne partie de son tonus et de ses talents. Son visage était un parchemin tendu sur les os proéminents de son crâne et de ses pommettes. Sa bouche aux lèvres minces produisait, quand elle parlait, une impression d'arrogance, comme si chacune de ses paroles tombait de haut vers des créatures inférieures.
« Eh bien, venez donc vous asseoir, »
commanda-t-elle en désignant un autre siège à lame qui lui faisait face. Vaf entendit le sifflement de la porte étanche qui se refermait derrière lui. Il était seul avec elle. Elle portait un détecteur. Il voyait le fil qui sortait de son oreille gauche. Les lances d'art de Vaf avaient été blanchies contre de tels détecteurs. On les avait hermétiquement scellés, puis maintenus à moins 340 degrés Kelvin dans un bain irradiant pendant 5 années standard pour qu'ils soient à l'épreuve des détecteurs. Mais était-ce suffisant? Lentement, il se laissa tomber dans le fauteuil indiqué. Des verres de contact orangés couvraient les pupilles de l'honoré matriarche, à qui il donnait un aspect féroce. Elle était vraiment effrayante. Et son costume? Un collant rouge sous une cape bleu foncé à la surface ornée de paillettes nacrées en forme d'arabesque évoquant d'étranges dragons. Elle occupait son siège souple comme s'il s'agissait d'un trône, ses mains crochues délicatement posées sur le bois des bras. Vaf fit des yeux le tour de la salle. Elle avait déjà été inspectée par ses collaborateurs en compagnie des techniciens ixiens chargés de son aménagement et des représentants de l'honoré matriarche. « Nous avons fait ce que nous avons pu », se dit-il en s'efforçant de se détendre. L'honoré matriarche éclata de rire. Vaf la considéra de son air le plus digne.
« Vous cherchez à m'évaluer, » accusa-t-il. « Vous vous dites que vous disposez contre moi d'immenses ressources, d'instruments subtils ou grossiers qui n'attendent que votre commandement. »«
N'utilisez pas ce ton avec moi. »
Elle avait dit cela d'une voix neutre et basse. Mais les mots étaient chargés d'un tel fiel que Vaf eut un mouvement de recul presque perceptible. Ses yeux s'étaient baissés vers les jambes musclées de son interlocutrice, vers le maillot rouge qui collait si parfaitement à sa peau qu'il semblait faire organiquement partie d'elle. Le moment avait été calculé pour que la rencontre se situe au milieu de leurs matinées respectives, leurs heures d'éveil ayant été synchronisées durant le voyage. Mais Vaf se sentait perturbé et désavantagée. Si ses informateurs ne se trompaient pas, elle devait elle aussi avoir ici des armes. Elle lui adressa un sourire dépourvu d'humour.
« Vous essayez de m'intimider ?» murmura Vaf.
« Non sans succès. »«
Je suis venu ici sur votre invitation, » dit-il sans laisser percer dans sa voix la rage subite qu'il éprouvait.
J'espère que vous ne comptez pas vous lancer dans un affrontement où vous seriez certainement perdant,
dit-elle.
Je suis ici pour forger un lien entre nous.
Et il se demanda intérieurement, que peuvent-elles bien vouloir de nous? Elles ont certainement quelque chose à nous proposer.
Quel lien pourrait-il y avoir entre nous?
Demanda l'honoré matriarche.
Qui bâtirait un édifice sur un radeau près de se disloquer? Tout accord peut être rompu, et la chose n'est pas rare en vérité.
Sur quelle base négocions-nous?
Négocier? Je n'en ai nullement l'intention. Je m'intéresse à ce gola que vous avez fabriqué pour les sorcières.
Sa voix ne laissait rien percer, mais Vaf sentit son pouls bondir devant le sujet abordé. Durant l'une de ses vies de Gola, il avait été instruit sous la responsabilité d'un Mentat renégat. Les capacités d'un Mentat le dépassaient amplement. De plus, le processus de raisonnement s'appuyait sur des mots. Il avait fallu tuer le Mentat Powinda, mais l'expérience avait laissé quelques enseignements précieux. Vaf s'autorisa une légère moue de dégoût à cette évocation, mais il repensa aux enseignements. Attaquer, puis tirer parti des informations produites par votre attaque.
« Vous ne me proposez rien en contrepartie, » dit-il d'une voix sonore.
« Je serai juge de la récompense. »
Vaf lui fit un sourire dédaigneux.
« Vous vous amusez à mes dépens ?»«
Si je voulais m'amuser avec vous, »
dit-elle en découvrant ses dents perlées en un sourire féroce,
« vous n'en auriez plus pour longtemps à vivre. » Vous ne souhaiteriez même pas survivre à mes jeux.
Je dois donc dépendre de votre bon plaisir.
Dépendre ?
Répéta-t-elle en plissant les lèvres, comme si ce mot avait une saveur particulièrement désagréable.
Pourquoi vendez-vous ces gueux-là aux sorcières, pour les tuer ensuite ?
Vav serra les lèvres et demeura muet.
Vous avez réussi à modifier ce gueux-là, tout en lui conservant la possibilité de retrouver ses souvenirs originaux,
reprit-elle.
Vous en savez beaucoup, dit Vaf.
Ce n'était pas tout à fait de l'ironie et il espérait n'avoir rien laissé percer.
Elles avaient donc des espions chez les sorcières.
Y avait-il aussi des traîtres à leur service sur les planètes centrales du Tleilax?
Il y a une fillette sur Rakis qui figure au centre de leur projet,
déclara l'honoré matriarche.
Comment savez-vous ces choses?
Il n'est pas un seul geste que les sorcières puissent accomplir sans que nous le sachions.
Vous pensez que ce sont des espions qui nous informent, mais vous n'avez aucune idée de l'ampleur de nos moyens.
Vav était consternée, disait-elle dans sa pensée. Était-ce un talent nouveau, né de la grande dispersion et cultivé loin des regards humains traditionnels?
Quelle modification avez-vous apporté à ce gola?
Demanda-t-elle, impérieuse.
La voix.
Malgré les armes que lui avait fournies son instructeur Mentat contre de tels procédés, Vaf faillit balbutier une réponse.
Cet honoré matriarche possédait quelques-uns des pouvoirs des sorcières. La chose était tellement inattendue de sa part. Devant une révérende mère, il aurait été préparé.
Il lui fallut un bon moment pour recouvrer son équilibre. Puis il joignit le bout de ses doigts contre son menton.
« Vous possédez des ressources intéressantes ?»
lui dit-elle. Une expression espiègle se peignit sur le visage de Vaf. Il savait à quel point il pouvait être désarmant quand il ressemblait ainsi à un lutin.
C'est le moment d'attaquer.
Nous savons ce que vous avez appris grâce au Bene Gesserit,
dit-il. Un éclair de rage illumina un bref instant le visage de l'honoré matriarche, puis disparut.
Nous ne devons absolument rien à ces sorcières.
Vaf mit dans sa voix un ton de séduction comique et cajoleuse.
Vous n'appelez sûrement pas cela négocier.
Pourquoi pas ?
Fit-elle d'un air sincèrement surpris.
« Voyons, honoré matriarche, » murmura Vaf en abaissant les mains. « Vous vous intéressez au gola. Vous parlez de ce qui se passe sur Rakis. Pour qui nous prenez-vous donc ?»«
Pour bien peu de choses. Et votre valeur diminue à vue d'œil. »
Vaf sentit dans cette réponse une froide logique mécanique. Rien de semblable à ce qui pouvait émaner d'un Mentat. C'était beaucoup plus glaçant et impersonnel.
Elle est capable de me tuer sur place.
Où étaient donc ses armes? Avait-elle seulement besoin d'armes? Il n'aimait pas du tout l'aspect rebondi de ses muscles, les cales sur ses mains, la lueur de fauve tapie dans ses prunelles oranges. Avait-elle deviné, pouvait-elle déjà savoir, la vérité sur les lances d'art qu'il cachait dans ses manches?
Nous nous trouvons face à un problème qui ne peut être résolu par des moyens logiques,
dit-elle. Vaf la regarda, sidérée. Un maître Zensuni aurait pu prononcer exactement les mêmes mots. Il l'avait fait lui-même en maintes occasions.
Vous n'avez probablement même pas envisagé cette possibilité, ajouta l'honoré matriarche.
C'était comme si ces mots levaient un masque de devant son visage. Vaf vit soudain, au-delà des attitudes qu'elle affectait, la nature de ses calculs. Le prenait-elle pour un vulgaire Xili, uniquement bon à ramasser de la merde de Limachon?
Mettant dans sa voix autant d'hésitation perplexe que possible, il demanda « Et comment pourrait-on résoudre un problème de ce type ?»«
Le cours naturel des événements réglera la question. »
Vaf continuait de la dévisager avec une perplexité feinte. Ces derniers mots n'étaient pas une révélation, mais que de choses il laissait entendre.
« Je ne vous suis pas très bien, » dit-il.
« L'humanité est devenue infinie. C'est cela le véritable bienfait de la dispersion. »
Il lutta pour dissimuler le trouble vertigineux qu'avaient fait naître ces mots.
des univers infinis, un temps infini, il peut donc se produire n'importe quoi.
Ah, vous n'êtes pas trop bête pour un petit homme. Comment faire pour tabler sur n'importe quoi? Il n'y a pas de logique. Elle parlait, songea Waff, comme l'un des anciens militants du djihad butlérien, qui avait tenté de débarrasser l'humanité de ses cerveaux mécaniques. Cette honorée matriarche était curieusement désuète.
Nos ancêtres cherchaient une réponse avec leurs ordinateurs, lança-t-il. Qu'elle déguste cela.
Vous savez parfaitement bien que ce qu'il manque aux ordinateurs, c'est une capacité de stockage infinie.
De nouveau, sa réplique le déconcerta. Lisait-elle vraiment dans la pensée? Était-ce une forme d'imprégnation mentale? Après tout, ce que les Tleilaxu faisaient avec les Golas et les danseurs polymorphes, d'autres pouvaient très bien le faire aussi. Il recentra son attention et médita sur les Ixiens et leurs inventions infernales, leurs machines Powinda.